sommes contents de vous accueillir à nouveau avec nous pour cette formation.
Deuxième partie sur la sexualité.
Ah, oui.
Alors, on a pris du temps pour voir à quel point la loi divine sur l'union sexuelle affectait nos corps.
Oui.
On a juste commencé à découvrir un petit peu. Je souhaite que le Seigneur vous en montre d'autres étapes. Oui. Mais cette loi affecte aussi notre esprit. Parce que à trois niveaux, on devient un. Si vous avez du mal à croire que le corps et notre esprit et nos pensées sont liés, vous n'avez qu'à imaginer les moments où vous essayez de jeûner. Essayez de ne plus manger pendant 3, 4, 5, voire plus de nombre de journées.
Ne tombez pas malade.
Non, mais vous allez voir à quel point votre corps a une influence sur vos pensées. Vous allez avoir vos pensées, et l'inverse est vrai.
Oui.
Vos pensées vont vous dire, mais donne-moi à manger, donne-moi à manger. Les deux sont liés. Eh bien, c'est la même chose au niveau sexuel. Vos désirs au niveau sexuel vont avoir une influence sur vos pensées.
Alors, vous savez très bien que souvent on dit d'une manière humoristique, mais parfois très sérieusement, que les hommes sont obsédés par le sexe, alors que les femmes, beaucoup moins intéressées, ce que je ne pense pas qu'il soit tout à fait vrai, mais c'est une expression classique que l'on entend souvent. Mais il y a quelque chose de vrai derrière, et qui est justement explicable au niveau hormonal. Il faut que vous sachiez, par exemple, que les hommes ont cette testostérone, qui est une hormone masculine, et aussi une hormone qui agit énormément sur le désir. Et pour des hommes entre 20-30 ans, à la force de l'âge, je crois qu'après 30 ans, nous sommes toujours à la force de l'âge aussi.
Oui, c'est bien aussi après.
Oui. Mais pour un homme entre 20 et 30 ans, eh bien, toutes les 15 minutes, il faut savoir qu'il y a une poussée de testostérone, et immanquablement, quand il y a cette poussée, eh bien, il y a des pensées, c'est une envie de sexe, une envie d'avoir une relation physique avec son épouse. Et eh bien, on y pense. Et tous les hommes savent ce que ça veut dire. Peut-être, mesdames, vous êtes surprises. Donc, c'est peut-être pas que les hommes sont aussi obsédés que cela. C'est simplement que la chimie de leur corps fait qu'ils y pensent plus régulièrement. Une autre qui est très importante à connaître, mesdames, pour vous et messieurs aussi, c'est qu'en fait, il y a ce que l'on appelle la règle des 72 heures, c'est-à-dire 3 jours. Tous les 3 jours, il se passe quelque chose de particulier dans le corps d'un homme. Vous savez tous que les hommes ont 2 testicules qui sont un petit peu le lieu de stockage, les réservoirs des spermatozoïdes. Eh bien, tous les 3 jours, toutes les 72 heures, plus ou moins évidemment, les testicules arrivent à leur pleine capacité de contenance de spermatozoïdes et puis le liquide qui est avec, etc. Et cela crée spontanément dans le cœur de l'homme une envie d'avoir un rapport physique pour relâcher ces petites bêtes qui peuvent donner la vie. Eh bien, s'il ne se passe pas de rapport physique, le corps va détruire ce stock et puis le reconstituer en 3 jours. C'est aussi pour ça que les hommes ont plus fréquemment cette envie d'avoir des rapports physiques. Évidemment, les cycles de la femme, eux, sont sur une durée d'un mois. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont envie d'avoir des rapports qu'une fois par mois. Mais c'est un mécanisme complètement différent. Donc, mesdames, une fois que vous savez cela, messieurs, une fois que vous savez cela, d'un seul coup, eh bien, ça devient plus naturel. C'est comme cela que Dieu nous a créés. Ce n'est pas mal. C'est au contraire une belle chose et une bonne chose.
Donc cette loi divine de l'union sexuelle,
oui,
agit sur notre corps, agit sur notre âme, agit sur nos pensées.
Parfait.
Il est parfaitement naturel, quelque chose que le Seigneur a mis dans notre corps, que d'avoir des pensées au niveau sexuel. Le danger vient quand ces pensées sont dirigées vers une personne qui n'est pas la nôtre.
Absolument. Qui n'est pas notre conjoint.
Qui n'est pas notre conjoint, à qui on n'a pas le droit de porter notre regard dessus.
Donc là où il y a péché, c'est quand on regarde quelqu'un par accident, quand on croise une image par accident, le péché, c'est quand on y revient. C'est le deuxième regard. C'est quand on repose nos yeux, notre regard sur l'image, la personne, et qu'on commence à s'installer. Vous connaissez le proverbe, on ne peut pas empêcher un oiseau de passer au-dessus de notre maison, mais on peut l'empêcher de faire son nid sur la cheminée ou sur le toit de la maison. Eh bien, pour les pensées, c'est pareil. Vous ne pouvez pas empêcher une pensée ou un regard de se poser sur quelqu'un, mais ce que vous en faites après, c'est ça qui constitue le péché. C'est là où la mort, si vous attrapez l'hameçon et que vous commencez à construire et à fantasmer, à imaginer,
à
vous y installer complètement, à laisser cette image faire un nid en vous, c'est là que le péché se constitue. Donc en fait, ce qu'on appelle la théorie du rebond,
oui,
il faut arriver à la mettre en pratique, vos yeux voient quelque chose, et bien vite vous rebondissez ailleurs et vous changez vos pensées, d'un seul coup vous disciplinez votre esprit à penser à autre chose afin de ne pas rester attiré et accroché par cette image qui vous a stimulé au niveau sexuel et qui n'était pas le corps de votre conjoint.
Donc en effet, un impact sur notre corps, sur notre esprit, sur notre âme, mais aussi sur notre esprit. Vous savez, dans Éphésiens 5, 23, il y a ce verset qui nous parle du fait que le mari est le chef ou la tête de la femme qui est son corps, avec un parallèle avec Christ qui est le chef de l'Église en fait. Eh bien, au niveau spirituel, cette connexion entre la tête et le corps, elle est réelle. Elle vient de, c'est une conséquence de cette loi, encore une fois, de l'union sexuelle. Quand on devient un, quand on est marié et que physiquement on devient un, eh bien nos âmes, notre âme se mélange et notre esprit se mélange aussi. Il y a une vraie connexion. Ce qui fait que quand, même si on n'est même pas dans le même pays, même si on est physiquement dans des endroits différents, nos esprits restent connectés. Vous voyez quel avantage ça peut représenter. C'est un atout extrêmement important pour nous défendre contre les attaques du diable, en fait. Je peux prier pour mon mari, même en étant loin, et mon esprit va être connecté aussi. Je vais ressentir les choses qu'il va vivre au niveau spirituel.
En tout cas, on peut toujours garder ce contact en priant l'un pour l'autre et en gardant cette connexion d'esprit, de cœur, d'âme, comme tu l'expliques.
Le plus on la travaille, le plus elle est
développée. Le plus elle devient réelle. Oui.
Donc en fait, ça c'est vraiment un cadeau de Dieu pour notre vie. Vous savez, la vraie satisfaction sexuelle, elle n'est pas simplement au niveau physique. Si on s'imagine que pour avoir une sexualité épanouie, il suffit juste qu'on apprenne des nouvelles techniques, eh bien on passe à côté d'une grande réalité. La vraie satisfaction plénière au niveau de la sexualité, c'est quand on va pouvoir devenir un au niveau du corps, mais aussi apprendre à ce que notre esprit caresse l'esprit de notre conjoint, à ce que notre âme caresse l'âme de notre conjoint. La vraie sexualité, elle est spirituelle, elle est sainte, elle est émotionnelle, elle est physique, tout cela mélangé.
Alors en fait, je pense que vous n'y avez peut-être, vous n'aviez jamais imaginé que en fait, faire l'amour quand vous êtes marié, eh bien, c'est aussi quelque chose de spirituel. Et je voudrais vous dire que quand vous démarrez les préliminaires et que vous allez entrer dans cette danse d'amour avec votre conjoint, le Saint-Esprit dit pas « Oh là là, attendez, je sors de la pièce, je veux pas voir ça ». Non, le Saint-Esprit reste en vous, c'est lui le créateur de la sexualité. Et c'est beau à ses yeux. Si c'est fait selon les standards de Dieu, c'est quelque chose qui va vous élever spirituellement aussi. Et le Seigneur reste en vous pendant que vous faites l'amour à votre conjoint. Donc il est là avec vous. Alors, cette image peut être choquante, perturbante, mais c'est pourtant la réalité. Et d'un seul coup, on comprend toute la sainteté de l'acte sexuel et sa beauté.
C'est une vraie forme de louange.
Tout à fait, c'est une forme de louange et d'adoration aussi, que de tous les deux s'unir à ces trois niveaux, comme tu l'as bien expliqué, pour offrir un acte d'amour à Dieu et dire « Seigneur, merci pour la joie que tu nous donnes, merci pour cette union que nous avons la possibilité de vivre à ces trois niveaux, émotionnels, spirituels et physiques. »
Pour que cette sexualité reste dans un cadre que Dieu approuve, on va vous donner quelques règles, juste pour vous donner un petit cadre.
Alors, il y a des sexualités dans le monde dans lequel nous vivons, et qu'est-ce que la Bible enseigne en fait? Quelle est la sexualité que Dieu va bénir par excellence, parce qu'elle ne comporte pas de péché, et parce qu'elle lui plaît, c'est celle qu'il a créée pour nous, c'est celle qu'il a voulu comme standard parfait. On appelle ça, c'est un petit peu un triangle avec trois règles d'or, c'est pas un triangle d'or, mais presque. La première règle, c'est que notre sexualité doit être biblique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, elle ne doit prendre place qu'entre deux personnes qui sont mariées ensemble et de sexe différent.
Il faut toutes les étapes.
Voilà. C'est très important de le rappeler. C'est le standard biblique et il ne variera jamais jusqu'à la fin de l'humanité. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, mesdames, eh bien...
On n'invite pas un autre homme dans nos pensées. On ne fantasme pas sur un autre homme pendant qu'on est avec notre mari. Ça serait inviter quelqu'un d'autre dans notre relation.
Tout à fait. Pour les hommes, mais aussi les femmes, on n'invite pas des pensées pornographiques pendant qu'on fait l'amour à notre conjoint en s'imaginant qu'on se rejoint des scènes de films que vous avez vus. On ne regarde pas non plus des magazines ou un film pour s'exciter mutuellement parce qu'encore une fois, je vous le rappelle, ce sont des êtres vivants qui jouent, ce sont des personnes réelles et c'est de l'adultère si vous les invitez avec vous. Donc tout cela, non, c'est simplement nous deux. On n'invite pas les voisins, on n'échange pas avec d'autres. Tout ça, ce sont des pratiques qui sont infâmes aux yeux de Dieu. Ce n'est pas le standard de Dieu. La deuxième règle, c'est que l'on ne peut pas forcer notre conjoint à faire quelque chose qu'il ou elle ne veut pas faire. Il faut qu'il y ait un accord mutuel. Vous savez que le viol entre époux est un crime et puni dans la plupart des pays aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas contraindre votre conjoint. Ça ne veut pas dire que ce sera un non définitif. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas changer en vieillissant, essayer des choses, voir si ça nous plaît, ça ne nous plaît pas. Ce n'est pas grave. Mais on ne peut pas violer la volonté de notre conjoint. Si le conjoint dit non, c'est non. S'il y a un feu vert, feu rouge, on ne peut pas y aller. Feu vert, on peut essayer et voir si ça nous réjouit ensemble.
On ne peut pas infliger la douleur non plus à son conjoint.
C'est la dernière règle. Il n'est pas acceptable de de blesser psychologiquement ou physiquement, volontairement, notre conjoint. On ne peut pas l'humilier, on ne peut pas faire quelque chose qui dégrade notre conjoint. Ensuite, une fois que vous êtes dans ces trois règles, eh bien, le ciel est la limite. Mm-hmm. Ne laissez pas la culture, que ce soit la culture de la pornographie, ou bien que ce soit une culture au contraire très rigoriste, vous dire ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire. La Bible est silencieuse par rapport à ce qui se fait dans le couple. Donc, ne laissez personne vous dire des choses si elles ne sont pas dans l'Écriture.
Absolument.
N'oubliez pas que le Saint-Esprit est avec vous. Donc, ce qui compte, c'est que vous soyez d'accord tous les deux, et puis que le Saint-Esprit bien, ne s'y oppose pas. Mais ne laissez ni la culture perverse du monde, ni une culture trop rigoureuse au niveau de certaines dénominations, peut-être, vous dire ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. La Bible, si elle reste silencieuse, signifie qu'il n'y a pas de péché qui soit un piège pour votre âme. Tant que vous respectez ces règles, eh bien, réjouissez-vous et définissez une sexualité qui sera la vôtre et qui vous épanouira.
Vous êtes convaincu que la sexualité que Dieu nous a créée pour nous est sainte et voulue par lui. Mm-hmm. Prenez du temps pour réfléchir ensemble et discuter sur ce que vous avez compris, en fait, globalement, de la sexualité voulue par Dieu pour votre couple. Et puis, invitez-le, quand vous ne faites plus qu'un.
Absolument.
Invitez-le à ce niveau-là, vous allez voir la différence.
Alors, méditez 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 17. « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. »
Il sera avec vous quand vous devenez un, au niveau
Absolument.
Spirituel, au niveau émotionnel et au niveau physique.
Puis on aimerait que vous puissiez continuer la lecture jusqu'au chapitre 8 maintenant, chapitre 5, 6, 7 et 8 du Cantique des Cantiques. Toujours en mettant des lunettes très sexuelles sur la lecture, on espère qu'on ne vous choque pas. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait la sexualité, Dieu nous l'a donnée pour qu'elle soit heureuse, qu'on se réjouisse, qu'elle nous épanouisse, certainement pas pour en faire un objet de contrainte ou de tristesse ou de frustration.
Que Seigneur vous bénisse, à la prochaine fois.
Bon courage. Au revoir.